Père Céleste, nous te bénissons ce soir. Nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être en ta sainte présence et de pouvoir plonger nos regards dans ta parole et d'en sortir édifié et restauré. Nous remettons ce moment présent entre tes mains, sachant que toi, tu es en contrôle de toute situation. Fais en sorte, Seigneur, que ton peuple puisse recevoir la nourriture nécessaire que toi, tu as déjà prévue de toute éternité pour lui. Que je sois, Seigneur Dieu, sous ton onction, afin que tout ce qui va sortir de ma bouche émane directement de ton trône saint et trouve, Seigneur Dieu, racine dans le cœur de ton peuple pour l'édification que tu as toujours voulu. Pour ta gloire et ton honneur, nous te prions, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Combien je suis content d'être parmi vous ce soir pour vous partager cette parole. Je sais que ça fait un bon petit bout que vous êtes debout pour la louange, mais je vais vous inviter à rester encore un peu debout le temps qu'on fasse la lecture du texte qui va nous servir de base pour la méditation de ce soir. Alors, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Marc, chapitre 4, et je vais lire pour vous à partir du verset 35 jusqu'au verset 41. Donc, l'Évangile de Marc, chapitre 4, verset 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetèrent dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis, il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-là à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen, vous pouvez vous asseoir. Notre méditation de ce soir a pour but de vous permettre de tirer certaines leçons lorsque nous passons à travers un moment difficile. Si je devrais donner un titre à la méditation de ce soir, je dirais « Quelles sont les leçons à tirer de ce miracle intitulé « La tempête apaisée ?» La tempête apaisée, c'est un miracle bien connu dans la Bible, qui est relaté d'ailleurs dans trois des quatre évangiles. Nous trouvons référence ou encore écho de ce récit dans l'évangile de Marc qu'on vient de lire, mais également nous le trouvons dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Matthieu. Je crois que le seul évangéliste qui n'en a pas parlé, c'est Jean. Si on regarde dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 8, les versets 23 et 27, nous allons trouver exactement le même récit que je viens de lire dans l'évangile de Marc. Et dans l'évangile de Luc, on trouve cela dans le chapitre 8, les versets 22 et versets 25. Ce récit a pour but, comme je l'ai mentionné tantôt, de vous fortifier lorsque nous connaissons des moments difficiles. Sachant que la venue de Jésus est la manifestation de sa puissance, de tout ce qu'il est, pour pouvoir nous donner la sécurité, pour pouvoir nous donner la paix lorsque nous connaissons des moments difficiles. J'aimerais entendre quelqu'un qui dise Amen. Et le récit qu'on vient de lire, même si Jésus a l'habitude de de prêcher des fois en parabole, mais ce que je viens de lire, ce n'est pas une parabole. C'est, en effet, quelque chose qui est passé, qui s'est passé, qui s'est déroulé pour de vrai. De façon générale, lorsque Jésus donne des enseignements, il le fait des fois en parabole. Mais ça, c'est un fait réel. Les journalistes, lorsqu'ils veulent savoir, si effectivement c'est arrivé, il y a des questions qu'on pose. On veut savoir c'est qui la personne, on veut savoir c'est quand, on veut savoir c'est où. Et dans ce récit, mais les journalistes peuvent se régaler, il y a toutes les réponses pour effectivement justifier que c'est quelque chose qui s'est vraiment déroulé. La personne de qui il est question, comme le texte le dit, c'est Jésus lui-même. Donc nous connaissons la personne qui l'a fait. Quand cela s'est déroulé, la Bible ne nous donne pas exactement le temps, mais la Bible situe ce moment au tout début de son ministère. On sait que Jésus a commencé son ministère autour de l'âge de 30 ans, et on a commencé à compter les années à partir du temps de Jésus, de son arrivée. Donc c'est approximativement autour de l'an 30 de notre ère que cette situation-là s'est déroulée. Le lieu, le texte nous le dit aussi. Cela s'est passé sur le lac de Tibériade. Le lac de Tibériade porte plusieurs noms. On appelle encore le lac de Tibériade la mer de Galilée, le lac de Kinneret ou encore le lac de Génézareth. C'est un lac qui existe encore et qui fait une superficie approximativement de 160 km². Et l'endroit où ce lac-là est situé, il est entouré de montagnes et le niveau de la mer, le lac est plus bas du niveau de la mer d'environ 200 mètres. Qui fait en sorte que cet endroit-là était propice à de tels événements. Pour quelle raison? Je ne m'y connais pas trop en météorologie, mais la raison, les météorologistes l'expliquent assez bien. Ils disent que la température à la surface de l'eau, elle est encore chaude, alors que les montagnes qui entourent ce lac-là sont capables de pousser des masses d'air qui font en sorte que ces masses d'air-là n'ont pas la même température que la surface de l'eau. Donc la température, elle est moins élevée que la température de l'eau, qui fait en sorte que à la rencontre de ces deux températures, il peut y avoir des perturbations qui font en sorte que on connaît la situation. On va laisser la météo de côté. On va revenir à notre enseignement. Alors, c'est juste pour vous donner quelques repères pour vous dire qu'effectivement, ce que la Bible nous raconte, c'est quelque chose qui est réellement arrivé. Dans ma préparation de cet enseignement, j'ai même vu passer également un texte où les archéologistes ont fait des fouilles non loin de cet endroit-là et on aurait retrouvé une bague. Et lorsqu'on a fait la datation au niveau du carbone 14, mais approximativement, on pense que c'est une bague qui a existé au cours de cette période. Et cette bague-là a même été baptisée la bague de Pierre ou la bague de Jésus. Est-ce que effectivement c'est cette bague-là qu'on est en train de parler? Mais les archéologistes mentionnent que cette bague-là, c'est une bague de cette époque-là. Quant à savoir si c'est la même bague, seul Dieu pourrait nous le dire. Mais on retourne. Marc nous dit que Jésus avait prêché toute la journée. C'est la même journée que Jésus avait donné également l'enseignement ou la parabole sur la parabole du semeur. La parabole qu'on devrait plutôt appeler parabole de la semence et des quatre terrains. Parce que cette parabole-là, on a plus d'informations sur les terrains et de la semence plutôt que du semeur. Cette même journée-là, Jésus a donné également des enseignements concernant le royaume. Marc nous dit, le soir étant venu, Jésus, dans sa barque, a invité les disciples avec lui et il a demandé de passer tout simplement de l'autre bord. La question est à se poser, pourquoi Jésus avait demandé de passer de l'autre bord? Il y a des hypothèses. Il y a des hypothèses comme quoi, après une journée d'enseignement, la fatigue pouvait se faire sentir. Jésus aurait pu nécessiter un peu de repos. Jésus aurait voulu que les disciples se reposent avec lui. Ou encore, Jésus aurait pu voulu valider l'enseignement qu'il avait enseigné à ses disciples. Ou encore, approfondir ces enseignements-là. Mais je crois que ce qu'on doit plus retenir davantage, c'est ce qui s'est passé plutôt que de rester dans les hypothèses. Jésus dit, passons de l'autre bord. Les disciples ont obéi. C'est une bonne chose. Parce que même au-delà des hypothèses, je pense que si on reste dans ces hypothèses-là, la raison est pour le bénéfice de ses disciples. La première chose qu'il faut retenir, c'est lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est toujours pour notre bien. Si on est fatigué, il est notre Seigneur. Il est capable de savoir qu'on a besoin de repos. Et si l'enseignement qu'il nous a donné, qu'il a partagé durant la journée, nécessite un approfondissement, mais lui, il le sait. Et il est capable de planifier ce moment-là également. Mais comme je l'ai mentionné, je crois que la suite du récit est également importante pour voir ce que Jésus a voulu enseigner à ses disciples. Le texte nous dit au verset 27, « Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. » Les textes que j'ai mentionnés tantôt, où on trouve écho de ce récit, il y a la même signification, mais on trouve des mots qui ne sont pas semblables. Matthieu dit « La résultante du péril de l'embarcation vient plutôt d'un séisme qui a commencé sur la terre et qui a traversé le lac. Luc parle de tempête et Marc, lui, parle de tourbillon. Mais peu importe la situation, on voit que le résultat, c'est la même chose. Le résultat, c'est que l'embarcation est en péril, la barque se remplit d'eau. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Ce qu'il faut retenir, c'est au grand désespoir des adeptes de l'Évangile à l'eau de rose, on peut connaître des moments de difficulté, on peut connaître des épreuves, même si on mène une vie chrétienne adéquate et même si on marche dans l'obéissance. Les disciples qu'on voit ici, l'embarcation qui est en péril, les disciples étaient au bon endroit. Ils étaient dans la barque de Jésus. Et ils faisaient exactement ce que Jésus avait demandé de faire. Ce n'est pas le récit de Jonas. On lui a dit d'aller à Ninive et puis il a pris la direction de Tassie. Le lac que on vient de parler, l'histoire nous dit que Jésus a commencé son enseignement sur la rive occidentale, côté ouest. Et le côté opposé, le côté est, c'est le côté qui était moins fréquenté, qui était plus escarpé. Et c'est pour cela qu'on passe à l'hypothèse que Jésus avait besoin un peu de repos pour les siens. Mais les disciples se dirigeaient du bon côté quand Jésus avait demandé de traverser. Et malgré tout, on voit que l'épreuve est arrivée. Cela nous rappelle aussi l'épisode de Job, où Dieu faisait éloge de son serviteur. Il a dit dans Job chapitre 1, le verset 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et nous connaissons la suite des épreuves de Job. avec la permission de Dieu, ben Satan a pu toucher à ses biens, à sa famille et à son corps. Mais Dieu ne lui avait pas permis de toucher à sa vie. Mais Job menait une vie exemplaire. Mais il a quand même connu des moments difficiles. Apôtre Paul aussi a connu un peu de difficultés. 2 Corinthiens chapitre 12, les versets 7 à 9, nous dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans ma chair, un ange de Satan pour me souffléter et pour m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Lorsque nous connaissons les moments de difficulté, les moments de preuve, ce n'est jamais agréable. Et c'est là qu'on se sent vraiment faible. C'est là qu'on se sent vraiment tout petit. C'est là qu'on se demande, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que ça va finir par finir? Je ne sais pas pour vous, mais les moments difficiles, les moments d'épreuve, c'est jamais facile. Mais ce que Dieu veut, nous comprenions, c'est que lui, il est capable de calmer la tempête. Il nous demande de regarder à lui pour calmer la tempête. Lorsqu'on connaît des moments difficiles, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas parce que notre vie n'est pas correcte devant Dieu. Oui, ça peut arriver. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons nous garder d'accuser un frère de péché ou une sœur de péché lorsque cette personne passe par un moment difficile. La Bible nous dit, au contraire, de se réjouir avec ceux qui sont dans la joie et de pleurer avec ceux qui pleurent. Romains chapitre 12, le verset 15. Des moments difficiles, des moments de tempête, On en connaît tous. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en connaître. Il y a même des personnes qui sont même abonnées. Chacun de nous, on connaît des personnes qui passent de difficulté en difficulté. Mais une chose est certaine, une chose est sûre. À travers chacune de ces difficultés, à travers chaque épreuve, Dieu, lui, il est fidèle. Il sera toujours, toujours à nos côtés. Amen. Si on regarde également, on peut voir que la Bible nous parle de plusieurs personnes qui ont connu des moments difficiles. Lorsque Dieu leur demande de faire des choix, même en obéissant, même en acceptant la volonté de Dieu, en acceptant la mission que Dieu veut bien leur confier, cela n'enlève pas pour autant la difficulté de la réalisation de cette mission-là. Si on prend notre père Abraham, Dieu lui a demandé de quitter sa patrie, d'aller vers une terre étrangère. Un héritage l'attendait, mais qu'il ne voyait même pas. Est-ce que cela a été facile pour Abraham? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Personne ne souhaiterait quitter sa maisonnée ou sa patrie pour aller vers une terre inconnue. Ce n'était pas une terre inconnue. La personne part en voyage, en aventure et puis revient là. C'est quitter la maison de tes parents vers l'endroit où je vais te montrer. Mais il a agi avec foi, il a obéi. Moïse aussi a connu son lot de difficultés. se présenter devant Pharaon, l'homme le plus puissant de l'époque, pour lui demander de libérer le peuple qui était en esclavage, qui était une source de revenus pour lui et une source de sa puissance, parce que le peuple bâtissait les châteaux, les pyramides, toutes les infrastructures. C'était pas facile. On peut dire que la libération du peuple a été beaucoup plus facile pour Moïse que de diriger le peuple, mais ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait aborder dans le leadership. Mais effectivement, Moïse a connu son lot de difficultés en acceptant la volonté de Dieu. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que oui, il y a des moments qu'on peut passer à travers des épreuves, même en obéissant à la voix de Dieu. Mais le plus important, c'est de savoir que Dieu sera toujours à nos côtés parce que lui, il est fidèle. Si on regarde les disciples dans leur propre situation, oui, ils ont obéi, ils se sont dirigés du bon côté pour traverser le lac. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait durant la tempête? Et c'est là qu'il faut comprendre que l'obéissance, c'est une chose, mais l'attitude, le comportement dans l'obéissance compte également. La Bible nous dit que les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait. Les disciples ont fait quoi lorsqu'ils ont vu cette difficulté-là? Un bon marin expérimenté, du moins pour 4 d'entre eux, ils se sont débrouillés par leurs propres moyens. Les disciples ont compté sur leurs propres forces. Pourquoi ils ont fait cela? Parce qu'ils se sont dit probablement, c'est une tempête comme les autres. On en a déjà connu. Parmi les disciples, il y en avait 4 que Jésus avait même rencontrés, non pas ailleurs, mais sur le même lac. Regardez dans l'évangile de Marc, chapitre 1er, et vous allez voir qu'on parle exactement du même endroit où se déroule ce récit que Jésus avait appelé 4 de ses disciples. Marc, chapitre 1er, versets 16 à 20. Comme il passait le long de la mer de Galilée, c'est le même lac, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivent. Plus loin, il dit, « Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient leur filet. Aussitôt, ils les appelèrent et ils laissaient leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivent. » Donc, ils étaient 12, mais il y en avait 4. Ces 4-là savaient naviguer, connaissaient le lac. Est-ce que ça se peut que ces personnes-là ont influencé les autres pour dire, regarde, on va s'en sortir, on va faire ce qu'il faut, ce qu'on a toujours fait pour essayer de nous sortir de cette situation qui est difficile? Alors, c'est quoi le faux pas des disciples? Le faux pas des disciples ici, c'est pas seulement d'obéir, mais c'est de vouloir continuer à perpétrer les mêmes actions qu'il faisait avant de rencontrer Jésus. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous allez me dire, il n'y a rien à vouloir s'en sortir. Oui, vous pouvez être marin. Vous pouvez avoir les capacités, les facultés pour sortir d'une tempête. Mais avec quelle foi, quelle assurance vous aborder de sortir de la tempête. Il ne faut pas oublier, le maître était à bord. La Bible nous dit, pendant qu'il faisait tout ça, et ce n'est qu'après, quand ils se sont rendus compte que la barque est en train de s'enfoncer, l'eau montait dans la barque, c'est là qu'ils se sont tournés vers le maître. Alors si avant, en tant que marin, Jésus n'était pas dans la barque, on se démêlait par ses propres moyens. Mais là, on a rencontré Jésus. Jésus est dans la barque. Les moments de difficulté, la façon qu'on les contrecarrait, qu'on les faisait face, avant de rencontrer Jésus, on ne peut pas continuer à faire de la même façon. Jésus nous invite à faire appel à lui. C'est lui qui dit dans sa parole que son fardeau est léger et son joug est doux. Vous pouvez toujours continuer à vous démêler par vos propres moyens. Mais je vous dis, tant aussi longtemps que vous continuez à le faire, mais l'eau va rentrer dans la barque. Et le texte nous dit, quand ils ont appelé Jésus, le calme est venu. Et avant même d'appeler Jésus, alors que eux autres, ils se démêlaient pour trouver la solution, Jésus, lui, il faisait quoi? Il dormait. Il dormait. C'est un peu paradoxal dans une situation pareille de dormir. Pour que la barque se remplisse avec des vagues, on parle de tempête, on parle de tourbillon. J'imagine qu'il y avait beaucoup de bruit. Puis j'imagine que l'embarcation n'était pas paisible. C'est pas comme une barque qui coulait paisiblement. Mais c'est des tempêtes. Et des tempêtes, ça peut fracasser une barque. Comment Jésus pouvait dormir? Jésus pouvait dormir tout simplement parce qu'il sait qui il est. Il sait que même ce qui se passe autour de lui, il n'a qu'à dire un mot, il n'a qu'à dire une parole. Et c'est cette confiance-là que Jésus nous invite à avoir en lui lorsqu'on sait que Jésus est avec nous. Lorsqu'on sait que Jésus est avec nous, et c'est ça qui va nous donner cette paix-là, de savoir, oui, la situation est là. Oui, on connaît des épreuves. Oui, on connaît un moment difficile. Mais le maître est là. Celui qui a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ce n'est pas un homme pour mentir. Il est là. Nous n'avons qu'à nous tourner vers lui. Il a toute la puissance, toute la capacité de régler la situation. Si c'est son plan, je ne connais pas l'épreuve par laquelle vous passez, je ne connais pas vos difficultés. Si c'est dans le plan de Dieu de dire « silence, tais-toi », mais c'est ça qui va se passer. Mais s'il veut que l'épreuve perdure encore, même pendant que l'épreuve dure encore, ce que Jésus veut faire, c'est de nous donner la paix. Et c'est pour cela qu'il a dit aux disciples, « Mais pourquoi avez-vous peur? » Et lorsque vous avez peur, c'est parce que la foi risque de prendre le bord. Et c'est ça l'autre question. Où est donc votre foi? Pourquoi avez-vous peur? Où est donc votre foi? Savez-vous pas que j'étais en arrière? Savez-vous pas que vous êtes dans ma barque? Et dans ma volonté, oui, l'épreuve peut être là. Mais moi aussi, je suis là. Et c'est ça le plus important. Au moment des tempêtes, peu importe le moment, peu importe l'intensité, sa force, Jésus nous invite à